Shavua Tov. D'abord remercier tous ceux, non seulement qui se joignent à nous, qui sont là ce soir, et ta chère Yeshno Poimano Ayom, la chère Anel Poimano Ayom, ceux qui nous aident, grâce à eux, à vivre nos institutions. Ils sont trop nombreux pour que je puisse les remercier chacun, mais qu'ils sachent que du fond du cœur, nous avons toujours des pensées affectueuses pour eux. Parce que M. Cachan a parlé de la Simcha. En vérité, c'est un sujet très difficile parce que il a parlé de la Simcha lorsque arrivent des choses qui sont difficiles. Et on va essayer de comprendre certaines choses et de voir comment, à la lueur de certains enseignements, et je vais commencer par un enseignement très connu du Rosh Yeshiva Rav Shach, Zichrono Livracha. Chaque mot de ce qu'il disait, c'était vécu. Vous allez voir pourquoi. Le verset dans la parashat, Vayeler, le verset annonce, Umetsaou, viendront des moments, Umetsaou, où le clan Israël, Raot, Rabot, Vetsarot. Il y aura Raot des malheurs, Vetsarot, Tsar. On le retrouve dans le mot Mitzrayim. Nous avons été délivrés d'Égypte, ce que nous appelons Geulat Olam. C'est-à-dire que personne ne pourra plus jamais asservir le clan d'Israël et le mettre dans cette situation de Meitzar en Mitzrayim. Meitzar, ça veut dire lorsque les frontières se rétrécissent, lorsque quelqu'un est oppressé. Et le verset continue. Alors à ce moment-là, l'homme dira, Allô, qui est Nelokai Bekirbi, c'est parce que Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas parmi moi. Metsauni Haraot Aele. Tout ça, ça m'arrive parce que Hachem n'est pas parmi moi. Et le nom de Rav Shach. Ah, le verset a commencé en disant « Metsaou, Raot Vetsarot » et toi tu diras « Al kien elokai bekirbi, Metsaou ni Raot aile » mais où sont passés les Tsarot? Il dit Rav Shach, il faut savoir ceci. Les Raot, on ne peut pas exiger que le monde soit conduit de façon à ignorer le rat et que rien de malheureux ne se produise. Mais l'homme, lorsqu'il se trouve dans une situation de raot, il n'est pas obligé de se trouver dans la situation de tsarot. Et comment est-ce qu'il va le comprendre? Le jour où il pourra dire « Alkien et Lokai Bekirbi », lorsque tu réfléchiras et tu comprendras que les Raot viennent, « Alkien et Lokai Bekirbi », Akadosh Baruch Hu n'est pas parmi nous. À ce moment-là, il ne te restera plus que des Raot, mais les Raot ne seront pas des Tsarot. Ce sera peut-être pas drôle, ce sera sûrement difficile. Tu auras affaire, et chacun dans sa vie a affaire aux rats qui viennent de lui, qui viennent de l'extérieur. Mais Tsarot, à partir du moment où tu as compris En Elokai Bekirbi, où réside le problème, alors il n'existe plus de Tsarot. On ne peut pas oppresser le juif. Parce que le juif est sorti de Mitzrayim, il est sorti d'Égypte, et la galoute et la geoula de Mitzrayim d'Égypte, ce sont le prototype de la galoute et de la geoula. Celui qui connaissait Rav Shach savait que de toute sa vie, il n'a eu presque que des raot. Pas une guerre, pas deux guerres, pas trois guerres. Et malgré tout, lorsqu'il a dit, mais dans le verset Allo Kien Elokai Bekirbi Matsauni, Araot, où sont les Tsarot? Et si lui dit que lorsque tu as bien réfléchi, En Elokai Bekirbi, alors tu as des Raot, c'est vrai, ça n'est pas facile. Mais les Raot, ça n'est pas des Tsarot. Et on va essayer d'expliquer. Ce verset, Alki en Elokai Bekirbi. Le bon Dieu n'est pas parmi moi. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu Bekirbi en moi? Tu parles de l'Aimuna, le Ribbono Shel Olam est partout. Qu'est-ce que ça veut dire avoir Akadosh Baruch Hu Bekirbi dans soi? Alors, il faut savoir une chose. Lorsqu'un homme se demande qui il est, et il comprend que sa volonté n'est pas la sienne, mais qu'elle lui est imprimée, qu'elle lui est donnée, et qu'il l'utilise. Son caractère n'est pas le sien. Ses émotions ne sont pas les siennes. Les émotions, ce sont la joie et la tristesse, la peur et la colère. Un homme est submergé par ça. Ça n'est pas les siens. Les émotions, elles n'appartiennent pas à la personne. Elles l'envahissent. De même que sa volonté, elle ne vient pas de lui, il n'a pas choisi. Et même sa liberté, il ne l'a pas choisi, elle lui a été imposée. Mais il n'en connaît pas la signification. Il n'en est pas le maître. Et le principe de la Emouna, qui n'est pas juste savoir des choses, mais les comprendre et les sentir, c'est que l'homme, lorsqu'il se demande qui il est, il n'est que des choses qui ne sont pas lui. À ce moment-là, l'homme se demande, puisque tout ce qui a force sur moi, tout ce que j'utilise, ça n'est pas moi, alors qui je suis? Je suis celui qui n'a rien à lui. Si tu veux le comprendre, mets-le en opposition avec le passouk, le verset, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, si jamais il te demande qui je suis, alors tu répondras, Ehayé Asher Ehayé. Il n'y en a qu'un qui est lui. Mais à part ça, personne au monde n'est lui. Et au contraire, l'homme est justement tout ce qui va évacuer, qui n'est pas lui, et qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. À partir du moment où l'homme sent ça, il commence à être un Baal Emouna. Alors il peut dévier, il peut emprunter des philosophies qui disent « Ah donc, toi tu es Dieu. » Mais s'il ne dévie pas, il va savoir qu'il peut utiliser le monde. Il peut utiliser son corps, il peut utiliser sa pensée, il peut tout utiliser. Mais lui ne dépend et il n'a de rapport qu'avec celui qu'on appelle, en français on traduirait, le sujet. Vous savez que dans la vie, il y a des objets, il y a des sujets. Celui qui commande, qui a un but, qui a un avenir, qui trace, c'est le sujet. Et celui qui fait partie de cet avenir, il est l'objet. Et l'homme va comprendre qu'il existe un sujet, il existe un objet, et lui n'est que l'objet. Et lorsqu'il va se demander, et Lokaïb Kirbi, à ce moment-là, il va se dire, mais moi, d'où je suis venu? Je suis venu, Vaipar, Beapo, Nishmat, Chaim. L'homme a été créé par le souffle divin. En moi réside une volonté divine qui ne m'appartient pas. À partir du moment où tu as compris ça, il existera toujours du Tov et du Ra. Tu auras affaire non seulement au Tovot, mais même au Raot. Mais il n'existe plus de Tsarot. Parce que la détresse, elle ne peut pas exister. Parce que tu as pris le recul et tu sais que là où on t'a enfermé, même si tu peux utiliser pratiquement rien de tout ce que tu as l'habitude d'utiliser, et Lokaïb Kirbi, ça, personne ne pourra te le prendre. Ça veut dire que lorsque l'homme voit que les choses sont difficiles et il perd l'espoir, il doit se demander qu'est-ce qu'il y a derrière les désirs, les besoins, ils me sont imprimés. C'est pas moi qui les ai demandés. Les émotions, je les utilise, mais c'est pas les miennes. Alors vient les Pirkei Avot et il dit, si tu as compris ça, Aseh Retzoncha Kirtzono, essaye de vouloir ce que veut le sujet et ne prends pas l'objet pour un sujet, parce que l'objet on le pose ici, on le pose là. Il fait partie d'un projet. Et celui qui mène le projet, c'est lui la source, on l'appelle le sujet. À partir du moment où tu arriveras à prendre ce recul-là, tu pourras comprendre que Yesh est Lokai Bekirbi. Et personne ne peut t'empêcher de quoi que ce soit sans que Akadosh Baruch Hu soit Bekirbi Chai, soit au fond, puisque c'est ma seule référence. C'est mon seul sujet. À partir de ce moment-là, tout devient relatif. Tu peux prendre du recul, même non seulement pour les désirs et les besoins, mais même pour les émotions. Tu as peur, tu peux prendre du recul. La joie, tu peux prendre du recul. La tristesse, tu peux prendre du recul. La colère, tu peux prendre du recul. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qui forme l'objet. Mais moi, j'ai déterminé qu'il existe un sujet. Aseh Retzoncha, essaye de vouloir ce que le sujet veut et l'okai bekirmi. À partir de ce moment-là, tu ne seras plus betsar, tu ne seras plus enfermé. Ce qu'on appelle la détresse, ça disparaît. Ah, le mal, il peut rester. Mais la détresse disparaît. Ça veut dire qu'on a vu des personnes, on les a connues, qui avaient une vie tellement difficile qu'on ne s'imagine pas un seul jour dans ce qu'on appellerait, nous, on appellerait ça la galère. Et quand même, ils sont sereins. Et quand même, ils ont un but et ils y vont. Et ils ne sont pas troublés par ça. Pourquoi ? Lorsque Metsaou, les Raot Rabot, Vetsarot, lui-même va enlever les Tsarot. Parce que c'était le but de la délivrance d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte avant la délivrance, de pouvoir être détaché des Tsarot. Détaché des Raot, on ne peut pas. Parce que le rat fait partie de la liberté, il fait partie de la conduite du monde par Akadosh Baruch Hu. Mais les tsarot, c'est possible. Et on va essayer d'aller plus loin. Vous savez que les commentateurs demandent pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi, celui qu'on appelle le régulateur de la Mishnah, a commencé par la Mishnah par le Seder Zraïm. Zraïm, il s'agit des mitzvot qui ont un rapport avec la terre. Et la première maséchet du Seder Zraïm, ça s'appelle la maséchet Brachot. Aucun rapport avec les mitzvot qui ont un rapport avec la terre. Où justement là-bas, il y a peu de Brachot. Et la maséchet Brachot, elle commence même pas par une bracha. Elle commence par l'obligation de la lecture du Shema. La réponse qu'on trouve, elle est dans le Rambam, dans la Hagdama, dans la préface. Et le Rambam, la quintessence, c'est ceci. La première conscience qu'a l'homme, c'est la conscience qu'il est dépendant, qu'il doit se nourrir, qu'il obéit à un ordre qui le dépasse. On traduirait nous, il est objet, il doit se nourrir. C'est pour ça que, avant d'envisager le reste, il faut envisager de comment tu produis et comment tu arrives à produire de la terre ce qui te nourrit. Mais avant, il y a quelque chose d'autre. Bien sûr que tu as compris qu'il faut se prendre en main, sinon on dépérit. Il y en a qui appellent ça « Imen Kemar en Torah ». Tu n'as pas de parnassa, tu n'as pas de quoi élaborer ta vie, tu n'as pas sur quoi la suspendre, eh bien ça tombe. Mais d'où ça vient ça? De nouveau, je ne suis pas le producteur moi. Je ne suis que l'utilisateur. Alors, tu vas comprendre qu'est-ce que sont les brachot. Vous savez qu'il y a des mitzvot, et la plupart, où lorsque on fait une bracha avant, il n'y a pas de bracha après. Mais dans les birkot hanehanim, lorsque il s'agit d'un profit qu'on retire, alors, il y a une mitzvah avant, il y a une bracha avant, il y a une bracha après. Pourquoi de bracha après? Alors, c'est simple. Si quelqu'un vient et me donne quelque chose, il y a deux choses qui sont passées ici. Premièrement, qu'il est venu vers moi. Deuxièmement, il est venu vers moi, mais pas les mains vides. La première bracha, c'est sur le fait que le Ribono Shel Olam est venu vers moi. Si on réfléchit bien, c'est peut-être pas lui qui est venu vers moi, c'est moi qui est venu vers lui. Mais ça ne change pas grand-chose. La deuxième chose, c'est ce que j'ai reçu. La première bracha, c'est de reconnaître qui t'a donné. La deuxième bracha, c'est de reconnaître ce qu'il t'a donné. C'est pour ça que lorsqu'on fait des mitzvot, il y a une seule bracha. Asher ki de shanu be mitzvotav. Ki de shanu. Il existe une kedusha. La kedusha, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire introduire une dimension qui n'est pas matérielle. On appelle ça la kedusha. Asher ki de shanu be mitzvotav. En français, on traduit mal, on traduit nous a sanctifié. Comme tout d'un coup, on était devenus tous des saints parce qu'on a l'obligation des mitzvot. Il n'y a pas de bracha après. Parce que tu n'as rien reçu si ce n'est une obligation. Mais lorsqu'il s'agit de Birkat Hanehemim, lorsqu'il s'agit que tu utilises quelque chose, avant de l'utiliser, tu dois savoir que quelqu'un est derrière, il existe un sujet, tu n'es que l'objet. Et une fois que tu as été né, une fois que tu as profité, alors à ce moment-là, tu parles de ce que tu as profité. Mais les deux choses, elles existent. Alors on va essayer d'expliquer. Pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous ne voulez pas changer de méthode ? Il dit parce que on va dans les soirées des institutions. Alors toute la soirée, c'est combien il donne celui-là, combien il donne celui-là, combien il donne celui-là. Chez vous, vous avez l'impression d'avoir tout ce qu'il faut et de rien demander à personne. Pourquoi vous avez adopté ce mode-là? Alors je vais vous dire la réponse. D'abord, dans la réponse, il faut bien faire comprendre ceci. Non seulement on n'a pas tout ce qu'il faut, non seulement on a besoin, mais on peut avoir extrêmement besoin. Les temps peuvent être évidemment difficiles. Et quand même, il existe une autre dimension. Il est écrit dans le Midrash dans Kohelet. Et on va voir que Rashi fait référence à ça. Il dit dans le Midrash dans Kohelet que lorsque le Tzibour se réunit et qu'on est Doresh, il y a une Drasha. Alors, à partir de ce moment-là, non seulement on étudie la Torah, Aval Mit Kadesh Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu. Il existe un Kiddush Hashem. À la fin de Sota, la Gemara demande quelles sont les choses importantes qui font tenir les choses. Le Beit HaMikdash, lorsqu'il était là, on comprend que c'était un lien entre le clan d'Israël et la Kadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, sur quoi ça tient? La Gemara dit deux choses, Kedusha de Sidra et Amen Yehishme Rabba de Agadta. Il dit Rashi. Kedusha de Sidra, c'est que lorsqu'un tzibour, il étudie ensemble, même un petit peu. Ou Amen Yehishme Rabba de Agadta, lorsqu'ils ont entendu la Agadta, c'est-à-dire un enseignement de Agada et pas d'Alacha, et qu'après on dit Kadish de Rabbanan, parce que vous savez que l'Alacha elle est, qu'on ne dit pas Kadish de Rabbanan lorsqu'on a étudié une Sugya de la Gemara ou lorsqu'on a appris des Halachot. Mais il faut dire après quelque chose qui a un rapport avec la Haggadah. Sinon, on ne fait pas le Kadish de Rabbanan. Et Rashi dit pourquoi? Parce qu'il y a Limoula Torah ve Kiddush Hashem. D'où Rashi a pris ce Kiddush Hashem? Il a appris du Midrash. Et il y a le même Midrash et dans Michelet et dans Kohelet. Seulement dans le Midrash, dans Michelet, il est marqué encore Akadosh Baruch Hu et Sameach Umit Ale. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu et Sameach. Il est en joie au mitalé et il s'élève. Il y a une grande différence entre la Haggadah et la Halakha. La Halakha utilise pratiquement uniquement les ustensiles de ce qu'on appelle le sechel, le raisonnement, la logique. Il y a des lois très précises pour étudier la halakha. Ces lois, elles se retrouvent dans toutes les sciences. C'est un raisonnement qui n'a, bien qu'il existe quand même, un petit rapport avec la personne elle-même. Mais la Haggadah, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que le Midrash dit « Haggadot chez Moshchot et Alev ». Vous savez que le mot « Haggad » en hébreu, attention, Haggadah, c'est avec un aleph, pas avec un hey, ça n'a rien à voir avec l'Haggadah chez le Pessah. Haggadah veut dire lier ou entraîner, les deux. La Gemara, elle utilise l'expression God ou Agud. Ou tu prends ou je prends. De même, lier les choses, ça s'appelle aussi Haggad. Les Haggadot Moshrot et Alev, ça fait que l'homme et un cœur différent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un cœur différent? Moshrot Talev. Et les Mforshim nous amènent le verset dans Yeshaya, dans le prophète Isaïe, où le Vavo Yavin ve Shav ve Rafalo. Le Vavo Yavin, son cœur comprendra. Alors on va expliquer. Il existe une immense différence entre la Haggadah, lorsque la Gemara dit Rabbi Yochanan Reish Lakish, le Shabbat, il lisait Sifrei d'Haggadah. Il existait des Chachamim spécialistes qui étaient uniquement dans la Haggadah, comme il y en avait qui étaient uniquement dans la Halakha. La Haggadah, c'est la compréhension des choses. Et ça commence ce qu'on appelle la Shava et la Lev. Veyadata, il y a une connaissance, ou le Vavo Yavin, et toi tu vas changer. Il y a un muscle qui s'appelle le cœur. Et ce muscle-là, il va changer. Le Vavo Yavin, tes réactions, elles vont être différentes. C'est pour ça que le monde de la Haggadah n'a pas de rapport avec le monde de l'Halakha. On va donner un exemple. Dans le monde de l'Halakha, jamais vous trouverez marqué que celui qui parle mal, qui dit du Lashon Hara, parle sur les autres, Motsidi Basorabim, celui-là, il n'a pas de Chelek l'Olam Haba, il n'a pas de part au monde futur, ou c'est plus grave que les trois avérot principales, Avodah Zara, Gilo et Arayot, Shfichut Damim, même que le meurtre. Vous ne trouverez jamais ça, ni au Beddin, ni au Sanhedrin, ni dans l'Halakha. Vous ne trouverez jamais des choses qui sont dites dans la Haggadah sur la façon de voir les choses. Dans la Gemara, tu peux avoir plein de halakhot, comment il faut étudier. Qu'est-ce qu'il faut demander au Rav? Comment on lui répond? Mais jamais tu trouveras dans la Halakha que Cholek al Rabo, que Cholek al Ashrina. Celui qui se permet de contredire son Rav, c'est comme s'il contredisait le bon Dieu. Tu ne trouveras jamais ça. Parce que c'est une autre dimension. Et là, les choses, elles deviennent tout à fait différentes. Parce qu'il a le monde du Maasé, comment je dois agir? Dans ce monde-là, il existe une halakha. Voilà comment le juif doit agir. né un monde qui s'appelle le monde de la Haggadah. Quelquefois on appelle le monde de la Marshava. Ça veut dire que c'est un éclairage différent pour les mêmes choses. Cet éclairage-là, il fait appel à des choses beaucoup plus intimes. Et de toute façon, tu vas voir que les choses prennent une énorme différence. Si j'ai parlé mal, on va te dire, l'alakha, c'est un lave, un machin, etc. La Haggadah, elle va te dire, oh là là, tu jongles avec le Olam Haba, tu joues avec des choses précieuses. Parce que c'est un autre monde. C'est un monde où d'objets, on s'occupe du sujet. C'est qui le sujet? Tsour le Vavi. Le bon Dieu t'a donné des possibilités, Lokai Bekirbi. Tu vas te forger, toi, une manière aussi de devenir un sujet. Et comment tu vas être ce sujet? Tu vas t'éloigner de ta compréhension du bas et de l'acte brut, et tu vas essayer de voir ce qu'il y a derrière. Quelqu'un peut avoir d'immenses raot. Des choses qui lui arrivent sont très difficiles à dépasser. Mais lui, il va pouvoir prendre la distance pour que ça ne devienne jamais des tsarot. Pourquoi? On appelle ça le Kiddush Hashem. Il a placé Elokai Bekirbi. Il a donné une autre dimension. Lorsque, ni le Midrash, les gens sont mis à Sfim, ils se réunissent pour écouter une dracha. À ce moment-là, il y a un Kiddush Hashem. Il dit, Rashi, non seulement on écoute de la Torah, mais il existe un Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddush Hashem? On a placé une dimension objective qui n'a aucun rapport avec le masse et avec l'acte. C'est un rapport avec le lève, c'est un rapport avec le cœur. C'est un rapport avec quelque chose de tout à fait différent. Ça veut dire que la faculté de changer, de prendre du recul, elle est pratiquement infinie. Au point que la tsara, elle n'existera plus pour toi. Ah, tu auras affaire au raot, bon. Le monde ne va pas toujours comme on veut. Mais les raot ne deviennent pas des tsarot. À partir de ce moment-là, lorsque Elokai Bekirbi, les désirs et les émotions, elles commencent à reculer et elles sont de moins en moins imposées. Parce que d'objet, tu es arrivé à raisonner, bien que tu ne le seras jamais, en sujet. Le sujet vrai, tu ne seras jamais. Mais il existe une dimension, Elokai Bekirbi, où tu vas agir comme le sujet, c'est ce que le Pirkot dit, Ase Rotsonra, qui est Rotsono. Tu vas vouloir ce que le bon Dieu veut. À partir de ce moment-là, il n'existe plus de tsarot. Seulement quoi? Ces choses-là sont très difficiles. Et je me dis pourquoi. Arrêt l'ego est quelque chose qui est imposé à l'homme. Et il en a besoin. Un homme sans ego ne se défend pas. Il ne sait pas faire valoir ses droits. Il n'arrivera jamais à s'en sortir. Donc il a besoin de l'ego. Seulement l'ego, autant qu'il est indispensable, il est destructeur. Parce que l'ego fait qu'on ne va pas vers l'extérieur, on va toujours vers l'intérieur. C'est pour ça que plus l'ego grandit, moins le courage existe. Plus l'ego grandit, moins l'espoir existe. Pourquoi? Il faut savoir que dans la vie, Saint-Yssod, Repsim Chazissel. On va essayer de le dire un peu autrement, plus facilement. Le propre du désir et de l'émotion, c'est qu'ils vont mourir. Ils sont là pour mourir. La colère, elle est là, pas pour s'amplifier. La peur, elle n'est pas là pour s'amplifier. La tristesse, elle n'est pas là pour s'amplifier. Elle est là pour baisser. Le désir, il n'est pas pour donner quelque chose. Il est pour se perdre. Ça voudrait dire que les émotions et les désirs, en vérité, ils sont mortifères. C'est l'objet de l'objet de l'objet. Et ça n'a pas de conséquences. Parce que si ça avait des conséquences, ce serait dramatique. Donc le but, il est que ça se perde toujours. La fin du désir, c'est de ne plus être un désir. Et s'il était toujours un désir, il n'y aurait pas de place pour un deuxième. La fin de l'émotion, c'est une autre émotion. Ça veut dire que ce sont des choses qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la brira, l'épreuve. Tu as le choix. On t'a mis devant le choix. Et lorsque tu ne peux pas les exercer, tu as quelque chose qui s'appelle tsar, tsarot, la détresse. Je ne peux pas aller jusqu'au bout de mes besoins, de mes envies, de mes désirs. Mais ça, ce n'est pas si grave. Parce que lorsque tu vas au bout, le but, c'était ça. Il n'était pas plus loin. Et lorsqu'un homme comprend ça, il va comprendre Elokai Bekirbi. Essaye de voir qu'est-ce que le bon Dieu pense maintenant, pas toi. Parce que toi, ça va être que ça. Tu vas utiliser les émotions, les envies, les désirs, et ça n'a pas de... Essaye de voir où est le ratson, aseratson, hakiratson. Essaye de te détacher de ça. Sachez bien, qu'à partir du moment où quelqu'un n'a plus de tsarot dans le rat, ça ne le touche plus. Ça n'existe presque plus pour lui. C'est ça ce qu'on appelle l'espoir. On va terminer par une notion très simple. Comment cet espoir de ne plus être sensible au tsarot? Pire que ça. Tu es en colère. Ris de ta colère. Ah, et celui qui est en face de toi, il arrive à prendre ce détachement. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Parce que tu as confondu l'objet en sujet. Tu es submergé par quelque chose et tu l'acceptes. Mais puis ça ne vient pas de toi, n'accepte pas. T'as peur, arrête d'avoir peur. Plus l'ego ira vers l'intérieur, vers la personne, et plus tu seras victime de ça. Et plus l'ego ira vers l'extérieur, et moins tu seras victime de ça, et plus tu seras courageux, et plus tu seras insensible. Pourquoi? Parce que l'objet, il est autre. Et il a été défini, pas par toi, petit sujet, qui se croit un sujet. Il a été défini par le ribbon en chez l'Olam. Nous vivons dans des sociétés qui sont basées sur le développement de l'ego. C'est-à-dire, l'homme heureux, c'est celui qui arrive à satisfaire ses besoins, ses désirs, ses émotions. Il est libre. Voilà ce qu'on appelle la liberté. Et en fin de compte, ça nous enferme. Pourquoi? Parce que l'homme au fond, en Elokai Bekirbi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, puisque tout ce qu'il fait, qu'il imagine, qu'il produit, c'est toujours produit par quelque chose qui est extérieur à lui. Toujours. Alors à la fin, il a compris ça. Et il devient une image. Le principal, c'est l'image que je donne. Puisque de toute façon, moi, il n'y a rien. Je ne suis pas moi. On m'a habitué à satisfaire mes besoins, mes désirs, mes émotions. Donc il suffit avec l'image. Ça, c'est le grand drame de la société. Alors vous allez demander aux psychologues, à tout ça, ils vont vous dire oui, pourquoi ? Parce que nos sociétés n'ont plus de but, n'ont plus de conflits à résoudre. Il n'y a rien de vraiment important. Alors qu'est-ce que fait chacun ? Il entretient sa petite vie. Il entretient ce qui ne vient pas de lui. Il ne fait que ça. Et s'il est bien arrivé à l'entretenir, il est tout content. Et à la fin, ça ne fait que tomber vers le bas. Quel est le remède à ça ? Il y a un seul remède à Moïse. Le remède, c'est que l'ego soit tourné vers l'extérieur. Puisqu'il existe un sujet, qu'est-ce qu'il veut de moi ? Assez retsonra qui retsono. Alors tu vas te tourner vers les autres. Et se tourner vers les autres, sachez que ce n'est qu'un moyen de se tourner vers l'autre. Et l'okaïb kirbi, ça n'est qu'un moyen. Parce qu'au fond, celui vers qui on se tourne, ce n'est pas l'autre. Parce qu'il oscille les objets. C'est seulement le ribbono shel olam. À partir du moment où un homme n'est pas seul, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Lorsque le tzibour se réunit pour écouter la dracha, il y a un kiddush Hashem. Il y a une autre dimension. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dimension du tzibour. La dimension du tzibour, elle est simple. Aucune émotion ne le regarde. Que moi j'ai une colère, j'ai une joie, j'ai une tristesse, j'ai une peur, ça ne le regarde pas. Donc ce que tu subis, tu ne vas pas le subir lorsque tu te places en tant que part du tzibour. Exactement comme si on te dit Elokai Bekirbi. Comment tu vas le trouver, Elokai Bekirbi ? Arrêtez, je me demande qui je suis, c'est que des choses qui ne sont pas miennes, c'est que des choses qui ne sont pas à moi, c'est que des choses qui m'ont été imposées. Le Kiddush Hashem, il n'est pas quand on étudie seul. Le Kiddush Hashem, il est lorsque le Tzibur, ils sont mitasfim, lishmoa adrasha. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir une chose bizarre. Il dit Rashi, Kaddish, c'est quoi ? Yehé Shemé Rabba, tu parles du nom d'Akadosh Baruch Hu. Et on appelle ça le Kiddush Hashem. Ça veut dire que tu laisses une place au Elokai Bekirbi. Comment tu vas le faire ? Tu ne peux le faire que lorsque tu es libre de tout ce qui t'agresse. Et on ne peut être libre que le tzibour. Parce que les gens qui laissent libre cours à leur colère, à leur peur, à leurs envies, ils n'ont jamais de possibilité d'avoir de rapport vrai avec le tzibour. Parce que, et le Gohan dit, il a marqué un passouk que tout le monde connaît. Le ta'ava yevakesh nifrad. Lorsqu'on veut satisfaire une émotion ou un désir, Nifrat, tu es obligé d'être à part. Et dès que tu es avec les autres, il n'y a pas de place pour ça. Ça n'intéresse personne. Celui qui se sépare du tzibour, c'est parce qu'il n'arrive pas à mettre Elokai Bekirbi. Si tu mets Elokai Bekirbi et on est ensemble, il y aura peut-être des raot. C'est pas sûr que tout d'un coup, il n'y aura que des tovot. Mais il n'y aura pas de tzarot. celui qui a bien compris ça, que la façon de s'en sortir, elle est que je ne me place pas en tant que satisfaisant ce qui ne vient pas de moi, mais satisfaisant des exigences qui sont celles du Ribbono shel Olam. À partir de ce moment-là, les tsarot sont passés. Donc si un jour quelqu'un vous demande, il y a de l'espoir en quoi ? Il n'y a de l'espoir que si les gens savent avoir un but commun. Et toute notre civilisation, elle est faite que surtout, il n'y ait aucun but commun. Parce que les gens qui s'associent, ils sont très dangereux. Il y avait un juif, malheureusement, il n'est pas le seul. Il a été interrogé au pôle financier. Il a dit à la juge, pourquoi vous êtes antisémite ? Elle a dit, moi je ne suis pas antisémite. Mais j'ai remarqué une chose. Deux juifs ensemble, c'est une association de malfaiteurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ensemble. Les autres, lorsqu'ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble. Ils ne savent pas mettre de côté. Maintenant que ce ne soit pas moins de l'antisémitisme qu'autre chose, mais il existe une réalité. Ça, c'est le koar de ce qu'on appelle Israël, ça va. Il y a quelque chose qui relie le clan Israël. À partir du moment où on est devenu que des consommateurs, et on est de plus en plus consommateurs, et vadaï qu'il faut apprendre l'alaha, et vadaï qu'il faut savoir dans le limoud. Mais dans le limoud, on est très consommateur. Alors que dans la Agatha, on ne peut pas être consommateur. Parce que, ou le Vavo Yavin, Veshav, Rafalo, le Vavo Yavin, il existe une dimension qui fait que j'introduis, vous pouvez appeler ça le divin, le métaphysique, le tout ce que vous voulez, dans ma façon de voir les choses. À partir de ce moment-là, et c'est ça ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dit, tu as besoin, tu dépends de la Parnassa. Commence par les halakhot de Zraïm, comment on produit. Mais avant, occupe-toi de la bracha, parce que sache d'où ça vient. Et comment on va parler de la bracha en premier ? Avec le Shema. Le Shema, c'est le principal de la Emouna, parce que vous savez qu'il est écrit dans les Sfarim. Shema Israël, en vérité, ça s'adresse à Yaakov Avinu. Ce sont les enfants de Yaakov Avinu qui lui ont dit Shema Israël. En belibenu el haechad. Nous, au fond de nous, il y a une seule chose. Et Elokai bekirbi, il n'y a que ça. Et ils ont dit Shema Israël, écoute Yaakov. Mais lorsque c'est introduit par les Chachamim, le Shema, il devient quelque chose qui s'adresse à chaque juif. C'est pour ça qu'il est écrit dans les Sfarim. Regarde bien les lettres de Shema avant de commencer le Shema. Les lettres, elles sont ce ou, marom et inechem. Avant de commencer et de savoir qu'on t'a donné et de savoir qu'il faut faire une bracha, ce ou, marom et inechem. Tu vas lever les yeux en haut. Ou re ou mi bara ele. Essaye de savoir comment les choses s'articulent. Sinon, ce céder-là, de commencer les brachot et Zraïm, ça n'aura pas de signification. Ce ou marom enichem. Et la meilleure façon de dire Elokai Bekirbi, d'introduire cette notion du divin en soi, c'est ce ou marom enichem. Shema, ça veut dire j'ai compris ou je comprends que les choses, elles ne se passent pas seulement au niveau du maasé, au niveau du matérialisme, mais elle se passe aussi à un autre niveau. Cet autre niveau, lorsque c'est le klal qui le fait, ça s'appelle un kiddush Hashem. C'est la raison pour laquelle, madaï que c'est intéressant de demander de l'argent, madaï que c'est intéressant de parler d'argent, mais ce qui fait vraiment venir l'argent, c'est peut-être pas ça. C'est simplement que le tzibour, matay shea tzibour mishtatfim, lishmoa drasha, ils écoutent la drasha. Alors à ce moment-là, Rachid dit, il y a deux choses. Limud haTorah ve kiddush Hashem. Kiddush Hashem, ça veut dire qu'on a introduit une autre dimension. Aujourd'hui, les temps sont durs et introduire d'autres dimensions, quelquefois, ça fait mal. Il y en a, ça fait mal à la poche de derrière, l'autre, ça lui fait mal à la poche de devant. C'est pas évident de donner le maaser, c'est pas évident de donner la tzedaka. Mais il faut savoir que où le vavoyavin, ça se traduira toujours en obligation. Ça restera jamais au stade de la marchava. C'est pour ça que aujourd'hui, nous devenons dépendants de tous et nous ne pouvons pas seulement être dépendants de certains. Parmi cela, je voudrais remercier, et je voudrais terminer, par remercier M. Cachan et son épouse qui sont derrière nous chaque jour et qui sont là pour soutenir. Mais aujourd'hui, sachez que la tâche, elle devient très lourde et que c'est la première fois que je m'autorise à le dire, Betzibon, ce n'est pas possible que ça continue comme ça. On est obligé de trouver des moyens. Et ces moyens-là, ils ne sont que si le Tzibour il s'attache et si le Tzibour il est Beshalom, parce que le Kli Marzik Bracha, En Kli Marzik Bracha, Ela Shalom. L'espoir, ça n'est pas une question d'argent. L'espoir, c'est pas seulement de s'associer pour une cause qui est de l'argent. Ça peut être pour beaucoup de causes, parce qu'on a trop pris l'habitude d'être des consommateurs. L'un, il est consommateur d'un cours, l'autre, il est consommateur d'une fila, l'autre, il est consommateur de ci, mais lui-même, il ne participe à rien. Et alors, la lutte, elle est trop difficile, et l'espoir, il s'amenuise, parce que c'est l'ego qui se raffermit, et ça n'est que la personne qui agit. La seule solution, de se réunir, de s'assembler selon ce qu'on a dans la tête, ce qu'on veut faire dans la vie. Quels sont les buts qui peuvent être les nôtres? De s'assembler chacun, pas une seule cause, il y a beaucoup de causes. Et chaque fois que le Klal Yisrael s'associe, là, il y a un espèce de Kiddush Hashem qui se fait que mi mêlé et de le Midrash Itkales est là. Mimele Akadosh Baruch Hu, il a pris une part dans le monde. Et on appelle ça la simcha. Il existe une simcha chez le Ribbono Shel Olam, c'est lorsque est reconnue cette part dans le monde. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun y prenne les choses pour lui et que les gens puissent vivre avec les autres et s'associer pour faire ensemble de grandes choses. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie vite. Meshiach Tzidkenu Bimera Biamenu Amen.